Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans Europe Soir. Deux heures d'infos, de décryptage et de débat. Il est 18h. Au sommaire de ces deux heures d'information, l'Italie vote demain. Giorgia Meloni a des chances avec Fratelli d'Italia de devenir à la fois la première présidente du Conseil femme depuis l'histoire politique de l'Italie et de conduire l'extrême droite fasciste au pouvoir. Nous sommes à Rome dans un instant pour prendre la température des électeurs. Rallonger l'internat en médecine et proposer une année de plus dans les déserts médicaux, c'est la proposition de François Braun, le ministre de la Santé, pour combler justement le vide de ces territoires où il manque cruellement de médecins. Explication d'abord et nous recevrons le docteur Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Les émeutes en Iran continuent de mobiliser les foules, indignées plusieurs manifestations dont à Paris nous y serons. Les éoliennes, Emmanuel Macron y croit, surtout celles destinées à produire de l'hydrogène. Reportage à suivre. Et puis le cycliste Julian Alaphilippe qui se lance dans la passe 3 en Australie. Le temps, Valérie Darmon.
Amélioration sur le pourtour méditerranéen en ce dimanche, plus nuageux avec quelques averses et puis ailleurs, toujours un peu de pluie et des températures légèrement sous les normales de saison qui vont rebaisser encore la semaine prochaine.
Précision dans 10 minutes, 18h15, la réforme des retraites, c'est maintenant et tout de suite, c'est ce que dit la présidente de l'IFRAP, Agnès Verdier-Molinier, elle est notre invitée. 18h30, ça fait débat, William Tay du Millénaire face à la conseillère en communication Marie-Virginie Klein. 19h, un nouveau journal, 19h15, Simon Liberati. Il publie Performance chez Grasset quand un écrivain sur le déclin se voit proposer une mini-série sur les Stones. Les souvenirs reviennent d'un coup. 19h30, Panorama. Et alors que Léopold Legrand sort son film Sixième enfant au cinéma avec entre autres Sarah Giraudeau, il pose le problème de l'adoption, des contraintes qui font qu'adopter un enfant c'est difficile, que les élever encore plus. Le réalisateur mais aussi Martine Brousse de La Voix de l'enfant et l'avocat Roland Pérez nous éclaire sur ce sujet. Nous sommes donc à quelques heures du scrutin que certains qualifient déjà d'historique, effrayant, terrible, les mots ne manquent pas, et de se rappeler cette vidéo de Giorgia Meloni, encore étudiante, vantant les qualités de chef d'État, mais aussi de père de la patrie de Benito Mussolini. Giorgia Meloni, avec l'alliance de Fratelli d'Italia, est en tête des sondages aux législatives, avec 24 à 25% des intentions de vote, contre 21 à 22 pour le Parti démocrate, 13 à 15 pour Cinque Stelle, 12 pour la Lega et 8% de Forza Italia. Et justement, avec ce score, une coalition ultra-conservatrice avec Matteo Salvini et Silvio Berlusconi pourrait rafler plus de la moitié des sièges au Parlement. Bonsoir Frédéric Michel.
Bonsoir.
Vous êtes en direct, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Rome. Quel sentiment avez-vous recueilli auprès des électeurs ?
Écoutez, ce qui est certain, c'est qu'ici, cette élection ne suscite pas un engouement majeur, hein, mais ce retraité se rendra tout de même aux urnes demain.
J'irai voter, bien sûr, c'est important, en espérant que l'Italie reste encore un pays.
Et comme de nombreux Italiens, Guido, un restaurateur romain, lui profitera de son dimanche.
Je pense que je ne voterai pas car il n'y a personne qui me représente. On dit que la droite gagnera, je ne sais pas si elle est extrême, comme le disent certains, ou si c'est un argument marketing monté par la concurrence, plutôt qu'une vraie extrême droite.
Alors si Giorgia Meloni l'emporte, elle deviendra la première femme à diriger l'Italie. Ce serait une grande victoire pour l'extrême droite, mais pas la première. Souvenez-vous, il y a 4 ans de la montée de la Liga avec l'arrivée au pouvoir en tant que vice-premier ministre de Matteo Salvini, qui occupera aussi un ministère clé, celui de l'intérieur. Demain, l'union des droites devrait permettre au parti post-fasciste Fratelli d'Italia de l'emporter avec ses partenaires de la Liga et de Forza Italia de Silvio Berlusconi, comme le souhaite d'ailleurs Marisa.
J'irai voter car je ne suis pas satisfaite de notre situation, j'aimerais mieux vivre. Je suis quelqu'un qui paie ses impôts et donc j'exige que les services fonctionnent, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. On a beaucoup de désordre public, beaucoup de chaos à tous les niveaux. Ce changement, c'est la droite qui le représente.
Voilà donc pour ces témoignages, Frédéric. Est-ce que l'inquiétude est tout de même de mise pour demain ?
Écoutez, la notion d'extrême droite n'est pas la même ici en Italie, à part chez les farouches opposants, mais ce qu'on entend beaucoup dans la rue concernant Giorgia Meloni, c'est qu'il faut essayer. Elle est la seule à ne pas avoir participé au dernier gouvernement de coalition, mais si la perspective d'une victoire n'est pas du goût de cette jeune italienne.
Cette idéologie, ça ne me plaît pas trop parce que je suis un peu moderne.
Moderne.
Je la vois un peu comme une opposition, par exemple. Un peu comme Marie Le Pen chez vous.
Voilà, et les résultats, me disait notre correspondant ici en Italie, Antonino Gallofaro, sont attendus dans la nuit de dimanche à lundi. Vous savez, c'est toujours très très tard en Italie. On devrait vraiment en savoir plus lundi matin.
Merci beaucoup Frédéric Michel et Antonino Gallofaro, les envoyés spéciaux d'Europe 1 à Rome. J'ajoute que Matteo Salvini demande des excuses ou alors carrément la démission d'Ursula von der Leyen qui, pour ceux qui l'ont suivi hier devant les étudiants américains de Princeton, a déclaré que l'Union européenne avait des moyens de pression contre le scrutin italien, comme elle en avait contre d'autres pays comme la Pologne ou la Hongrie. Certains observateurs n'ont pas manqué de qualifier ces déclarations de surréalistes. Également à l'étranger, des files d'attente de voitures à la frontière entre la Russie et la Géorgie. Près de 2300 véhicules à un seul poste frontière, note Moscou, reflet de la fuite des Russes qui se poursuit suite aux annonces de Vladimir Poutine, le président russe qui d'ailleurs vient de signer une loi alourdissant les peines à l'encontre des déserteurs ou ceux qui refusent la conscription, des peines allant jusqu'à 10 ans de prison. La Maison-Blanche catastrophée, ce sont les mots de sa porte-parole par la décision prise par l'Arizona. L'État du Sud-Ouest, suivant la récente décision de la Cour suprême, a réactivé une loi datant du 19e siècle et qui interdit quasi totalement l'avortement dans cet État. La santé en France, avec cette décision du gouvernement de prolonger l'internat pour les futurs médecins et pour ces futurs praticiens, un seul objectif, les ancrer dans les déserts médicaux. Arthur Delaborde.
Oui, Emmanuel Macron tenait à cette réforme promise pendant sa campagne. Les étudiants en médecine générale auront donc une quatrième année d'internat au lieu de trois, ce qui fera pour eux 10 ans d'études au total. Et lors de cette année supplémentaire, ils exerceront en dehors de l'hôpital, en ambulatoire, sous la responsabilité d'un maître de stage. L'idée, c'est de les inciter à effectuer cette quatrième année d'internat dans les zones dépourvues en médecins, par exemple en leur proposant un logement sur place qu'ils pourront conserver s'ils souhaitent rester à l'issue de leur cursus. Sur la forme, cette mesure sera intégrée au budget de la Sécu. Certains députés se demandent si le Conseil constitutionnel donnera son feu vert. Les sages ont en effet l'habitude de censurer les cavaliers sociaux, c'est-à-dire des dispositions sans impact budgétaire et insérées à tort dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale.
Merci Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Bonsoir Jean-Paul Hamon.
Bonsoir.
Président d'honneur de la Fédération des médecins France, bonne ou mauvaise idée ?
Écoutez, la concertation ne semble pas être la première qualité de ce ministère qui déjà avait menacé les médecins généralistes de nouveau de rendre les gardes obligatoires. Là, les internes découvrent qu'ils vont devoir faire une quatrième année, qui plus est dans une zone déficitaire. Alors la bonne chose, si vous voulez, c'est qu'ils ne seront pas très loin de leur fac parce que 70% de la France est en zone désertifiée, donc de ce côté-là, ils ne seront pas très loin, mais à aucun moment, on ne voit la moindre incitation. Alors, vous avez parlé de l'appartement, c'est encore un minimum, parce que quand on est dans les
parcs de la zone de garde
et qu'il faut rentrer chez soi, c'est la moindre des choses. On pourrait aussi considérer que ça n'est pas de la main-d'œuvre à bas coût et que ce n'est pas en les payant 2000 euros par mois qu'on va inciter les jeunes à s'installer. Il faut carrément doubler le salaire. Effectivement, les loger, c'est le minimum, mais pensez que ce sont des jeunes parents, donc ils vont avoir besoin de faire garder leurs enfants et puis sécuriser la prise en charge des patients et rassurer le médecin en ayant au moins 2 maîtres de stage joignables au téléphone.
Alors,
pour sécuriser la prise en charge.
Jean-Paul Hamon,
ça, c'est le minimum.
Doubler le salaire plus 2 maîtres de stage au lieu d'un, là, on explose les budgets, comme on dit.
Non, on n'expose pas les budgets, mais on sécurise. Écoutez, il s'agit pas de prendre des risques avec les patients, ni de dégoûter l'interne qui découvre qu'il va être obligé de faire une année supplémentaire sans aucune quoi. Et simplement dire qu'on va les loger, franchement, c'est se foutre du monde quoi. Les jeunes, ils étaient partis pour faire 9 ans d'études. Là, maintenant, ceux qui arrivent en 6e année, ils vont découvrir qu'ils vont faire 10 ans. Première chose. Deuxième chose, ils vont dans une zone démographique. On ne met aucune mesure incitative en dehors du fait de les loger. Alors j'avais un de mes camarades qui a proposé d'ailleurs ce matin de dire au maître de stage, eh bien l'interne reste dans le cabinet du maître de stage et le maître de stage, lui, va faire son exercice en zone démographiquement faible pendant 2 jours ou 3 jours la semaine.
Oui.
Et au moins on a quelqu'un qui a de l'expérience.
Mais l'idée même de combler ces déserts médicaux, elle est louable, Jean-Paul Hamon.
Non, mais attendez, ça fait 25 ans qu'on dit qu'on va arriver dans les déserts. On y est. Mmh. C'est 25 ans de d'absence de décision, d'absence de courage.
Mieux vaut tard que jamais.
Mais attendez, là, la médecine générale n'est plus choisie. Là, on s'aperçoit qu'il y a une dégradation de la qualité de prise en charge des patients. Mmh. Je viens de voir dans un journal que ce matin que le Crédit Agricole va se marier avec Europe Assistance pour assurer des téléconsultations. Mais quand est-ce qu'on va arrêter ces plateformes commerciales de téléconsultation qui dégradent la prise en charge des patients ? Qu'on utilise une télé-expertise pour demander l'avis d'un spécialiste, qu'on utilise le télésoin pour demander à un infirmier d'aller voir une personne âgée à domicile et qu'on puisse être en téléconsultation, d'accord, mais arrêtons de dégrader la qualité de prise en charge des patients et faisons en sorte de ne pas dégoûter les jeunes médecins de rentrer dans
le message
métier.
Est passé.
Bah oui, j'espère.
Merci beaucoup, Jean-Paul Hamon. Et merci beaucoup pour votre franchise. Toujours égal, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. 18h10, vous restez avec nous, une pause. Et dans un instant, l'émotion des Iraniens de France, mais aussi les éoliennes offshore qui sont destinées à produire de l'hydrogène. A tout de suite.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Les Iraniens de Paris ont manifesté ce samedi pour dénoncer la violente répression du régime qui dure depuis une semaine maintenant et qui a conduit à la mort d'une militante kurde de 22 ans. 50 morts rien que cette semaine, 739 personnes arrêtées. Écoutez cette militante kurde iranienne Somaya totalement révoltée.
C'est à la fois pour soutenir vraiment la révolte qui est à la suite de la mort de Gina, mais aussi c'est pour la justice, pour demander la justice, et contre la République islamique d'Iran qui est très très répressive, particulièrement par rapport aux femmes. Il faut savoir qu'en Iran, en fait, la répression contre les femmes, c'est super systématique. C'est un apartheid sexuel, c'est vraiment basé à la fois dans la loi et aussi dans la vie quotidienne. Du coup, on est surveillé à l'université, au travail, dans la famille. On ne peut pas être silencieuse à cette situation-là en Europe, en exil. Voilà. On essaie de vraiment être la porte-parole et aussi la voix des gens qui sont dans la rue.
Voilà, le reportage ou en tout cas le témoignage de Somaya, cette kurde iranienne au milieu des manifestants parisiens avec Chloé Lagadou. Jeudi, Emmanuel Macron inaugurait le premier parc éolien offshore à Saint-Nazaire. Un pas de plus vers la généralisation des énergies renouvelables. À quelques kilomètres de là, une autre inauguration, celle du premier site de production d'hydrogène renouvelable offshore. Un projet de l'entreprise Lhyfe avec pour but l'arrivée de ce carburant, l'hydrogène sans émission de CO2. Reportage Margot Faudéry.
À quai, une barge jaune en forme d'hexagone de 20 mètres de long sur 14 de large, à 6 mètres au-dessus du sol et au sommet, un électrolyseur pour transformer l'eau de mer en hydrogène grâce à l'électricité éolienne, explique le directeur général délégué de Lhyfe, Antoine Hamon.
C'est le gros conteneur jaune qui est en plein milieu et vous avez un conteneur qui va traiter l'électricité. Donc l'électricité qui vient de l'éolienne, il faut la traiter pour alimenter l'électrolyseur. Et de l'autre côté, vous avez le traitement de l'eau. Donc on va aspirer l'eau, la déminéraliser pour la mettre dans notre électrolyseur.
De l'eau et du vent, selon lui, cela permettra par exemple de produire du carburant propre pour les voitures.
Dans la molécule d'eau, on a de l'oxygène et de l'hydrogène. Et donc en mettant simplement de l'électricité dans de l'eau, l'hydrogène porte l'énergie qui va ensuite faire avancer votre véhicule et recracher que de l'eau derrière votre véhicule.
Pour l'instant, la barge de 300 tonnes reste dans le port pour les derniers tests, mais dès le printemps, direction l'océan où elle sera connectée à une éolienne flottante. L'objectif, équiper des grands parcs éoliens offshore, comme celui inauguré le même jour à Saint-Nazaire.
C'est un pilote qui va nous permettre de déployer ça massivement pour pouvoir décarboner l'industrie, la mobilité et la chimie.
En attendant, cette barge peut produire 400 kg d'hydrogène chaque jour, de quoi alimenter 100 voitures à hydrogène.
Reportage de Marco Faudéré au large de Saint-Nazaire. Plus de 500 000 foyers privés d'électricité sur la côte atlantique du Canada suite au passage de Fiona dans la seule province de Nouvelle-Écosse. Un seul opérateur fait part de 414 000 clients sans électricité alors que les services météo canadiens ont multiplié les mises en garde sur cette tempête qualifiée d'historique et qui a déjà causé la mort de 7 personnes. Le sport et après les larmes de Federer, la passe 3 pour Julian Alaphilippe. Rien à voir, je vous l'accorde. La course en ligne des championnats du monde de cyclisme, c'est la nuit prochaine à Wollongong en Australie. Julien Alaphilippe est double tenant du titre, mais le Français n'arrive pas dans une forme optimale, Martin Lange.
Oui, la saison 2022 de Julien Alaphilippe ne restera pas dans les annales, c'est le moins qu'on puisse dire. Seulement deux petites victoires, une infection au Covid et surtout une ribambelle de chute. La dernière lors de la Vuelta, il y a 3 semaines. L'équipe de France a eu peur, mais le double champion du monde défendra bien son maillot arc-en-ciel cette nuit, malgré cette préparation perturbée.
Je suis certainement pas à 100%, mais j'ai vraiment envie de me faire mal, vraiment envie de donner le meilleur de moi-même sur cette course, et que ce soit pour l'équipe de France mais aussi pour essayer de gagner avec les gars, ça sera l'objectif, et bien sûr que je serai content de contribuer à tout ça, quoi.
Un Julien Alaphilippe plus collectif que jamais, car l'équipe de France débarque en Australie armée. Christophe Laporte, vainqueur d'étape sur le Tour, Romain Bardet mais aussi Benoît Cosnefroy ou encore Valentin Madouas, autant de coureurs qui pourraient jouer leur carte à Wollongong. D'ailleurs, le sélectionneur Thomas Vauclair n'a pas voulu en dire plus sur sa stratégie, mais il lui faudra de l'imagination face à un plateau relevé avec notamment Wout van Aert ou encore le double vainqueur du Tour, Tadej Pogacar.
Martin Lange, le temps, Valérie Darmon, et le calme revient dans notre ciel.
Des averses orageuses qui affectent encore la Corse en début de journée, mais effectivement, le temps est à l'amélioration. Autour du golfe du Lion, le temps qui redevient sec, hein, d'ailleurs, et le soleil qui refait de belles apparitions. Sur le reste du pays, le ciel est toujours nuageux, voire très nuageux, avec des averses passagères toujours plus fréquentes près de la Manche, et sur les reliefs de l'Est, sur les Pays de la Loire, le bassin parisien, le Grand Est. Vous connaissez de petites pluies fines assez désagréables, façon crachin. Et puis dans l'après-midi, ces averses qui s'espacent et les nuages qui laissent percer quelques éclaircies. Les minimales vont aussi entre 7 et 14, et l'après-midi, il va faire entre 16 et 23, du nord au sud. C'est bas, c'est faible, et c'est surtout en dessous des normales de saison.
Merci Valérie Darmon. Dans un instant, notre invitée Agnès Verdier-Molinier. Harder, better, faster, stronger, plus fort, plus vite sur la réforme des retraites, c'est le mot d'ordre de la présidente de l'IFRAP. À tout de suite.